Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel, l'émission La Voix des Notaires, Franck Granger, notaire à Chartres. Je suis à ce micro pour le compte de la Chambre des Notaires d'Eure-et-Loire que je représente. Je vais vous parler aujourd'hui de droit de la famille, vous faire une petite présentation du droit des successions ainsi que des droits légaux du conjoint survivant. Et puis également, je vais vous parler de l'achat d'un bien en indivision, c'est-à-dire en couple, qui a des implications importantes, notamment en matière de droit des successions. Le droit des successions, tout d'abord, lors de l'ouverture d'une succession, quels sont les problèmes à régler, quelles sont les formalités à accomplir, qui hérite, dans quelle proportion, quel est le coût des actes. Votre notaire va vous accompagner pour gérer toutes ces questions juridiques et fiscales. Le règlement d'une succession va comporter quatre grandes étapes. Un délai de 6 mois est toujours applicable, une année pour les défunts décédés hors de France. Le fameux délai de 6 mois dont, en général, on nous parle, qu'est-ce que c'est ? C'est le délai pendant lequel les droits de succession, donc les impôts qui sont éventuellement exigibles au décès, doivent être réglés à l'administration fiscale. Ce n'est pas un délai impératif, on ne va pas en prison si on n'a pas payé les droits de succession dans les 6 mois, mais seulement pendant 6 mois, ils ne portent pas intérêt. Au-delà des 6 mois, ils peuvent porter intérêt, il peut y avoir également des intérêts de retard et des pénalités. Première étape, le notaire va établir la liste des personnes appelées à recueillir la succession, ce qu'on appelle les héritiers, ainsi que leurs droits respectifs. On va interroger la famille pour savoir s'il y a des descendants, enfants, éventuellement petits-enfants représentant leurs parents, à défaut de descendants s'il y a des ascendants, donc les parents, papy, mamie, et éventuellement les frères et sœurs, et après ce qu'on appelle les collatéraux ordinaires, donc les neveux, cousins. Et puis on va également faire ce qu'on appelle la dévolution successorale, c'est-à-dire le tableau de l'hérédité, savoir quels sont les droits des héritiers. S'il y a 2 enfants, est-ce qu'ils héritent moitié chacun? Est-ce qu'il y a un testament éventuellement? Donc le notaire va céder des documents donnés par les proches de la famille, le livret de famille, les contrats de mariage, les jugements de divorce, le testament éventuel, la donation entre époux, pour savoir qui sont les héritiers et dans quelle proportion ils vont pouvoir hériter de ce que laisse le défunt. Le notaire va également interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté. Toute personne qui dépose un testament chez un notaire ou une donation entre époux, le notaire va l'inscrire sur un fichier national qui est tenu par la profession, qui va permettre de savoir qui a déposé quoi chez quel notaire, même si c'est chez un autre notaire, pour éviter de passer à côté de testaments qui seraient déposés sans que personne le sache. Le notaire va ensuite dresser un bilan complet du patrimoine du défunt. Il va lister les biens, il va essayer de déterminer leur valeur, il va également déterminer quelles sont les dettes. Il faudra donc communiquer au notaire l'ensemble des documents, titre de propriété, relevé bancaire, livret d'épargne, facture, permettant d'évaluer l'actif et le passif de la succession, lui indiquer les différentes opérations effectuées dans le passé, les achats, les ventes, constitution de société, les donations. Et puis le notaire va rédiger éventuellement un état du patrimoine ou un inventaire successoral si c'est échéant. Le notaire va accomplir des formalités hypothécaires et fiscales liées au décès. Le notaire va établir un acte disant que les biens immobiliers qui appartenaient au défunt ou à la communauté existant entre le défunt et son conjoint appartiennent maintenant aux héritiers. On va rédiger également la déclaration de succession, qui est une déclaration fiscale pour payer éventuellement les droits de succession qui seront dus dans les 6 mois du décès, avec les éventuelles demandes de paiement différé, de paiement fractionné le cas échéant. Les héritiers vont pouvoir décider ou non ensuite de se partager les biens en totalité ou partiellement. Les héritiers peuvent décider de ne pas partager les biens. Ils resteront ce qu'on appelle alors en indivision. Mais si l'indivision est jugée trop contraignante, les décisions importantes devant être prises à l'unanimité, les héritiers pourront souhaiter le partage d'un bien. En principe, celui-ci peut être provoqué à tout moment. Le plus souvent, il a lieu à l'amiable en cas de désaccord grave sur la valeur des biens, sur la composition des lots entre les enfants. Mais il peut être nécessaire de s'adresser au juge. Ça va entraîner des délais, ça va entraîner des coûts. Mais le règlement complet d'une succession va dépendre largement des particularités propres à chaque dossier. Alors oui, en moyenne, il est de 6 mois. C'est d'ailleurs le délai maximum pour payer droit de succession. Mais quelquefois, le partage peut durer beaucoup plus longtemps. Comme je viens de vous le dire, Une personne défunte va laisser des héritiers. Alors les héritiers par le sang, mais également des héritiers qui peuvent être ce qu'on appelle ses alliés. Le conjoint survivant, c'est l'allié le plus connu. La loi considère que le conjoint est un véritable héritier maintenant, sauf cas de divorce ou de séparation de corps. Il n'héritera pas pour autant de tout. Parfois, il héritera seul, parfois, il sera en concours avec ses enfants ou des membres de sa belle-famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conjoint n'est en général pas un héritier réservataire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de part minimum, sauf dans un cas. En général, les héritiers réservataires, ce sont les enfants. D'accord? Il est donc utile d'organiser la protection de son conjoint. Tout d'abord, dans le cas où le défunt va laisser des enfants nés de son union avec son conjoint, le conjoint va recueillir à son choix un droit légal, soit l'usufruit de tous les biens du défunt, c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus, soit la propriété du quart des biens. Il est important que le conjoint exerce correctement son choix, car sinon tout héritier peut l'inviter à prendre son option. Faute de prendre parti dans les 3 mois de la demande de l'héritier, le conjoint sera réputé avoir opté pour l'usufruit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, chaque cas est particulier. Il faudra, dans chaque cas particulier, demander au notaire d'analyser la situation. L'usufruit appartenant au conjoint pourrait être converti en rente viagère éventuellement, et en cas de désaccord, c'est le juge qui mettra d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, un couple marié ayant les mêmes enfants, le conjoint survivant restera en possession des biens. Les biens immobiliers, les biens mobiliers, il restera avec son niveau de vie. Si le défunt maintenant laisse d'autres enfants que ceux du couple, eh bien le conjoint survivant, notamment quand c'est une deuxième union, n'aura pas le choix et va recueillir la propriété du quart des biens. C'est pour ça qu'il sera important dans cette mesure, si vous voulez que votre conjoint, en cas de deuxième mariage, s'il y a eu des enfants d'un premier lit, si vous voulez que votre conjoint recueille l'usufruit des biens pour être sûr de rester dans la maison, une donation entre époux sera indispensable. Si le défunt ne laisse pas d'enfants et qu'il a toujours son père et sa mère, eh bien le conjoint survivant va recueillir la moitié des biens. Le beau-père, la belle-mère vont avoir un quart chacun. Et si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, dans ces cas-là, le conjoint aura les 3 quarts, son beau-père le quart ou la belle-mère le quart. Et si le défunt n'a ni enfant, ni petits-enfants, ni père et mère, c'est le conjoint qui hérite de tout, excepté des biens que le défunt aurait reçus par donation ou succession de ses parents. Dans ces cas-là, la moitié de ses biens reviendrait aux frères et sœurs du défunt, ou à leurs enfants ou petits-enfants. Mais dans tous les cas, le défunt pourra avoir réduit ou supprimé les droits du conjoint survivant par testament. Après se pose la question, au moment de l'achat, d'acheter en indivision. L'indivision, c'est quand plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien, des meubles par exemple, une voiture, des immeubles, un terrain, appartement, maison. Ça va permettre un financement, un entretien et une gestion a priori plus facile. L'achat en indivision présente une grande simplicité. Il suffit de savoir qui achète quoi et dans chaque proportion. Nous sommes 3 amis, nous voulons acheter un avion, on l'achète chacun pour le tiers. Je suis avec ma petite amie, nous voulons acheter une maison, nous l'achetons chacun pour moitié. Nous n'avons pas la partie gauche ou la partie droite, nous avons la moitié de tout. Le fonctionnement de l'indivision, par contre, peut se révéler plus difficile que prévu, car toutes les décisions importantes doivent être prises à l'unanimité, c'est la règle absolue. Alors, il est vrai qu'on a du mal à avoir une majorité lorsque l'on est deux. Mais on pourrait très bien penser, si on a acheté à 5, qu'une règle de majorité des 3 cinquièmes pourrait suffire pour prendre une décision. Pas du tout. Chaque indivisaire étant tenu d'une partie des dettes de l'indivision, par exemple les impôts, les travaux, le risque de mésentente doit donc bien être évalué avant l'achat, car ce sera l'unanimité pour toutes les décisions. La loi pose donc comme principe que chaque copropriétaire pourra à tout moment imposer à l'autre de vendre le bien pour en partager le prix. Donc l'indivision, c'est un régime qui est un peu compliqué parce que c'est l'unanimité, et puis qui peut être fragile car dès que l'on n'est plus d'accord, n'importe qui, des indivisaires, peut demander le partage. Alors il existera une possibilité de donner une plus grande stabilité à l'indivision. C'est la signature d'une convention d'indivision. Elle doit nécessairement être écrite par écrit, bien sûr. Elle doit décrire le bien, indiquer la quote-part de chaque indivisaire, publier au service de la publicité foncière. Pour les biens immobiliers, elle devra être conclue par acte notarié. Elle est conclue pour au maximum 5 ans et elle va nous permettre de prévoir qui aura les pouvoirs pour répartir telle dépense. On peut même nommer un gérant qui aura des pouvoirs pour régler les dépenses du quotidien. Pour les époux pacsés depuis 2007, ou les couples vivant en union libre, la règle est la même, c'est la séparation de biens. Les personnes peuvent acheter ensemble leurs biens malgré tout, il est possible d'acquérir le bien en indivision. L'acte d'acquisition précise alors les proportions de la propriété de chacun en fonction du financement apporté par l'un et l'autre. Cette précision aura son importance au moment d'une éventuelle séparation du couple. Si vous occupez seul un bien indivis, sachez que vous pouvez être redevable d'une indemnité d'occupation aux autres indivisaires. Par ailleurs, sachez que si vous voulez vendre votre part à un étranger à l'indivision, les autres indivisaires auront un droit de préemption. On ne peut pas imposer à un indivisaire de supporter la venue d'un étranger qu'il n'aura pas choisi. Il faut donc leur proposer l'achat par priorité avec une procédure spéciale qui impose d'envoyer l'huissier. Enfin, la division n'est pas toujours une situation choisie volontairement. En effet, c'est le cas à chaque fois que vous héritez avec d'autres personnes. On parle alors d'une indivision successorale. Pareil si vous êtes divorcé, on parle alors d'une indivision éventuellement post-communautaire ou post-maritale. L'indivision peut donc être un choix, l'indivision peut donc être forcée. Sachez que en indivision, vous avez toujours la possibilité de prévoir une convention d'indivision qui aura en général pour objet soit d'aménager une indivision choisie, soit d'aménager le temps de la fin d'une indivision forcée, c'est-à-dire indivision en attendant le partage après divorce ou en attendant le partage de succession. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt sur l'antenne de Radio Grand Ciel, l'émission La Voix des Notaires. Au revoir.